Vous êtes bien sur Radio Marseillette, votre radio audoise.
9h, 14h. La quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette.
Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le bistrot du livre, une émission proposée par Cépage d'encre avec Henri et Françoise. Aujourd'hui, un invité. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, je vais vous dire, la radio, c'est comme un bon polar, rien ne se passe comme prévu. Nous devions vous parler d'une romancière de la Terre, Marie-Hélène Lafon, mais, il y a une semaine, s'est produit un événement dont on se serait bien passé. La disparition d'un homme important dans la vie des livres, un homme aux vies multiples, quelqu'un qui jonglait avec les continents comme il jonglait avec ses passions, avec ses talents. Un pied dans la neige, l'autre sur le sable, une vie de romancier, une autre d'homme de théâtre, un des maîtres du polar scandinave, mais aussi romancier tout court, mais encore un homme de passion et d'engagement, notamment aux côtés des Palestiniens de Gaza.
Son nom, Henning Mankell.
Mankell, mais oui, le père du commissaire Kurt Wallander, le sondeur des noirceurs, des désillusions scandinaves, le spectateur désolé d'un monde, d'un modèle délabré, fissuré, sous les pressions xénophobes, fiévreux du mal-être de la jeunesse, malmené par une criminalité toujours plus présente et une classe politique déboussolée. On est loin de la Suède insouciante des années 70, ah les petites suédoises, et le commissaire Wallander est la vigie désabusée de ce monde fragile qui craque comme une glace trop fine.
Wallander était inquiet. En général, le sentiment de révolte intérieure avait sur lui un effet stimulant. Ils étaient fixés pour but de bien faire son métier. Mais, en ce moment précis, il se sentait là et dépourvu de toute confiance en lui. Il se força à passer la première. La voiture avança de quelques mètres, mais il s'arrêta de nouveau. Il eut l'impression qu'il venait seulement de se rendre compte de ce dont il avait été témoin en ce matin d'hiver sous la morsure du gel. L'indicible sauvagerie de l'agression dont avaient été victimes ces deux vieillards sans défense le glaçait soudain de peur. Il s'était passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Peut-être notre époque nécessite-t-elle une nouvelle sorte de policier, pensa-t-il. Des gens capables de pénétrer dans un abattoir humain de la campagne du sud de la Suède un petit matin de janvier sans réaction particulière. Des policiers qui ne soient pas en proie à des doutes et à des tourments moraux, comme moi.
Et Mankell va ainsi malmener le commissaire Wallander dans cette région du sud de la Suède, la Scanie, en proie aux affaires d'espionnage, rappelez-vous les sous-marins espions russes rôdant dans les fjords, bousculés par des commandos d'extrémistes sud-africains venus régler quelques comptes avec des réfugiés politiques, minés par les mafias de l'Est, pour qui drogue, prostitution et meurtre ne sont finalement que les ingrédients normaux d'une société parallèle. Quoi de plus normal alors que son héros soit un être cabossé, déprimé et parfois un peu perdu? D'autant que la vie ne lui épargne rien, ni les désillusions amoureuses, ni les coups de poignard.
Au commencement, tout n'était que brouillard. Ou peut-être comme une mer épaisse, blanche, silencieuse, le paysage de la mort. Ce fut d'ailleurs la première pensée de Wallander lorsqu'il revint à lui. Il était déjà mort. Il n'aurait pas dépassé l'âge de 22 ans. Un jeune policier, à peine adulte, voilà. Et puis un inconnu s'était précipité vers lui avec un couteau et il n'avait pas pu l'éviter. Après, il n'y avait eu que le brouillard blanc et le silence.
Mais bien sûr, Wallander s'en sortira. Il est à l'aube d'une carrière riche mais chaotique qui le conduira à travers plus d'une vingtaine de romans à côtoyer toute la misère humaine. Mais Mankell, ce n'est pas que le polar. Ce sont aussi des romans plus denses, plus éclectiques, plus littéraires, pour sonder l'âme humaine, comme dans Profondeur. À la découverte d'un ancien marin, reclus sur une île déserte, fuyant la compagnie des hommes. Ou, dans Les Chaussures italiennes, un autre ermite, toujours sur une île déserte, qui voit sa vie bousculée par l'intrusion d'une femme, son premier amour, au soir de sa vie, venu lui rappeler une promesse de jeunesse. Et puis, il y a l'Afrique, chez Mankell, sa deuxième vie, avec par exemple Comédia Infantile.
Je n'ai pas encore parlé du sable d'un blanc aveuglant, ni des palmiers bruissants, ni des requins qu'on voit parfois au large de la jetée rongée par les intempéries. Je le ferai plus tard. Maintenant, je vais vous parler de Nelio, l'exceptionnel, de celui qui est arrivé de nulle part, de celui qui a élu domicile dans une statue oubliée sur une des places de la ville. Et c'est justement par là que je vais commencer mon histoire. Tout commence par le vent, ce vent mystérieux et attirant qui souffle sur notre ville et qui vient de l'océan Indien en perpétuel mouvement. Moi, José Antonio Maria Vias, seul sur un toit, sous le ciel étoilé des tropiques, j'ai une histoire à raconter. Lorsque les coups retentirent cette nuit fatale où je trouvais Nelio baignant dans son sang, cela faisait déjà de nombreuses années que je travaillais dans la boulangerie de cette femme à moitié folle qui était Donna Esmeralda. Nelio était étendu. Le sang qui coulait de sa blessure paraissait presque noir sur sa chemise blanche en coton. Je vais chercher de l'aige, ai-je dit. Il m'a fait non de la tête. Il fait frais ici, a-t-il dit. Je veux rester ici, je ne vais pas mourir, pas encore. Ce silence. Ici, j'ose libérer mes esprits.
Comédia Infantile, ou la lente agonie d'un enfant de 10 ans, riche de poésie, est victime d'une guerre civile. Car oui, l'Afrique, c'était l'autre vie de Mankell. Depuis 1972, il sillonne le continent et en 86, il se fixe au Mozambique avec sa femme, Eva Bergman, la fille du cinéaste. Il crée un théâtre à Maputo, le Teatro Avenida, qu'il animera jusqu'à la fin de sa vie, consacrant 6 mois de sa vie à la Suède pour écrire et 6 mois à l'Afrique pour créer des spectacles. Et beaucoup parmi ses proches au Mozambique ignoraient tout du Mankell écrivain, ne se doutaient pas qu'il était un auteur célèbre là-bas, dans cette lointaine Europe. Mais pour lui, cette double vie, cette double appartenance, était nécessaire pour mieux comprendre le monde. C'était en 2004, sur France 2, Henning Mankell.
Je crois très sincèrement que j'ai compris très tôt, en tant que jeune romancier, que j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à l'Europe pour avoir les choses un peu plus claires, savoir dans quel monde je vivais, comprendre le moment où je vivais, comprendre la pensée des autres. Et donc, il fallait que je sache que le point de vue européen n'est qu'un point de vue parmi d'autres. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'observer un autre point de vue, de vivre avec un autre point de vue. C'est vrai que je mourrais européen, peu importe le temps que je passerais en Afrique. Ma langue est européenne, je suis européen, mes traditions sont européennes. Néanmoins, l'Afrique m'a permis de voir plus clairement ce que signifie être européen. Par exemple, aujourd'hui, je vois également plus clairement que le système européen, le système politique et le système démocratique, même s'il est fragile, est le meilleur. Et je ne suis pas certain d'avoir vu cela sans cette perspective que m'a donné le voyage à l'extérieur. Donc, en Afrique, j'ai appris des choses sur l'être humain, plus de choses sur l'être humain.
Henning Mankell, qui disait aussi « Je suis né pour écrire des histoires ». Il est mort le 5 octobre dernier. Vous trouverez sa bibliographie sur la page de l'émission, sur les sites de la radio. Et maintenant, notre séquence « Coup de cœur, coup de gueule ». Charlie, un petit titre ?
Oui, alors on s'en va en Tchécoslovaquie, quand ça s'appelait encore la Tchécoslovaquie. Ouais. On est lors de la Première Guerre mondiale, avec le brave soldat Čvejk, je crois qu'on prononce comme ça, vous ne le connaissez pas. C'est de l'écrivain tchèque Jaroslav Hašek. Alors ça raconte... C'est un roman, mais plutôt une fable. Donc c'est un soldat qui est considéré comme fou, mais il est quand même enrôlé dans l'armée. Et ça raconte un peu, enfin, c'est un super absurde, c'est grotesque, c'est les aventures de ce brave soldat, mais brave comme on l'expression dans le sud, hein, pas bravoure, mais
il est brave.
Ah, le brave garçon qui va bien. Et donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc à Prague, c'est la domination austro-hongroise, et c'est vraiment de la caricature anti-militariste. Il est considéré comme un peu l'idiot du bataillon, une grande naïveté. Et puis au final, ça a été un peu considéré, on compare souvent ce livre, enfin le personnage à Don Quichotte, mm-hmm. un truc comme ça. Et c'est vraiment les Tchèques qui ont été vraiment séduits par l'absurdité du roman et qui ont en fait vraiment une figure très 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 importante pour la nation tchèque. Voilà, le brave soldat Tchvejk par Hatchek, et c'est chez Folio.
Super, merci Charlie. Et pour nous, à la fois un coup de cœur et un coup de gueule pour le même prix. Cela concerne un artiste pratiquement inconnu en France et pourtant un sacré personnage, un précurseur. Un sculpteur dont la biographie vient de sortir. On la doit à une femme, historienne de l'art, conservateur au Centre Pompidou à Paris, Doina Alemni, une bio de Henri Godier-Breschka.
Et pour nous en parler, on a invité Jomi Cuadrado. Peintre, sculpteur, plasticien, bien placé car il est pratiquement le seul à avoir consacré une expo à cet artiste. C'était cet été, dans le Minervois, à Asilane et à la FNAJ à Oupia.
Alors Jomi, ben, bonjour.
Bonjour.
Et puis on a envie de te demander une seule question, c'est pourquoi Godier-Breschka est-il aussi méconnu en France et aussi respecté en Angleterre ?
Alors il y a au moins deux raisons à cela. Bon, la première c'est qu'on ne choisit pas où on est et lui hélas est né, enfin hélas ce que je dis moi, est né tout près d'Orléans, coincé entre Jeanne d'Arc et Charles Péguy. Qui était quand même un peu différent de ce qu'il pensait, lui, en termes de politique et en termes de religion. Donc, ça a été la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il a vécu avec une femme, Sophie Breschka, dont il a accolé son nom au sien, le nom de Breschka. Et on le prenait souvent pour l'étranger, et puis elle avait 20 ans de plus que lui, ce qui était quand même un crime de lèse-majesté à l'époque. Alors, Il a démontré qu'il était très très doué en peinture, en dessin. Et puis bon, il n'a pas réussi à percer à Paris, il n'a pas réussi à être reconnu par les divers mouvements parisiens. Peut-être, je pense, trop à l'avance et puis un caractère bien trempé, on dira. Et il est parti en Angleterre, il s'est réfugié en Angleterre, il était objecteur de conscience. Et donc c'est pour ça qu'en Angleterre, il est très connu. Et donc il a réalisé, en 5 ans, puisqu'il est mort à 24 ans, il a réalisé l'essentiel de son travail là-bas. Et si vous voulez, le problème qu'il a eu, c'est que lorsque les Allemands ont bombardé la cathédrale de Reims, il a dit, je ne peux pas rester...
Loin de tout ça.
Oui, loin de tout ça. Donc il est rentré en France, il s'est engagé, il est allé mourir à Neuville-et-Saint-Vaast, sur le front de la DDR. Et c'est pour ça que Doina Alemni a mis un peu, entre guillemets, un sculpteur mort pour la France, un peu, si vous voulez, c'est peut-être un peu de façon à piquer, puisqu'il n'est pas du tout connu en France et qu'il a donné sa vie pour la France, quoi.
Alors qu'en Angleterre, c'est ce que je disais, il est hyper connu. Et puis, quand on regarde un petit peu ses dessins, on s'aperçoit que Picasso a été un peu pioché dans cette ligne-là, dans cette tendance-là pour créer tout son mouvement. Et si on a envie d'en savoir un peu plus sur la vie de Godier-Breschka, il y a un film aussi qui est intéressant, c'est de Ken Russell.
Le Messie sauvage de Ken Russell, qui a été tiré de livre qu'avait fait... John Hyde, qui était conservateur et chef de la Tate Gallery. Il y a aussi un livre qu'avait fait le maire de Roger Secrétin, un sculpteur maudit, Henri Godier-Breschka. Mais ce sont des choses assez difficiles à trouver. Il faut les trouver d'occasion, mais encore ça se trouve. Et ça permet de voir toute l'étendue de la modernité de son travail. Et bon, et pour moi, ça reste quand même une sacrée énigme qui n'ait pas été reconnue par le temps, par la, par l'intelligentsia française, quoi.
Eh ben heureusement qu'il y a cette biographie donc de Doyne Alemany, Henri Godier-Breschka, un sculpteur mort pour la France entre guillemets, de l'anarchie au patriotisme héroïque. Et puis donc je vous renvoie aussi à ce film de Ken Russell. C'est une bonne manière de, oui, d'appréhender le. Et la vie est pas facile à cette époque-là quand on vit avec quelqu'un effectivement qui a 20 ans de plus, quand on n'a pas de sous mais qu'on a envie de créer. Et à la fin de ce film, il y a une bonne rétrospective de son travail, puisqu'il y a tout un plan sur une galerie où il expose, et ça vous donnera un peu une idée de ce travail. Et je vous le disais, on y retrouve beaucoup de lignes un peu à la Picasso. Ben merci Jemmy Cuadrado. Merci. Et pour vous. Nous c'est terminé, et la prochaine fois, promis juré, on vous parlera de Marie-Hélène Lafont, avec quelques petits rendez-vous quand même.
Allez. Quelques petits rendez-vous d'agenda. Alors, les contes de la Montagne Noire.
Ça se termine avec ce soir une soirée conte à Salsigne, et vendredi une dernière à Cabrespine.
Et puis la grâce à l'abbaye, le banquet d'automne.
Vous savez, l'été, il y a le banquet du livre, un rendez-vous qui est de très 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 grande qualité. Là, c'est du 23 au 25 octobre. Le thème cette année, écrire le réel, avec entre autres comme invité Mathieu Riboulet.
Donc, prochain épisode à suivre, avec comme promis Marie-Hélène Lafont.
Merci pour
tout. À bientôt.